Nous revoilà à l'antenne avec toute l'équipe, vous aussi, pour partager ce, débat sur le thème de la prédestination. Alors bonsoir, rebonsoir Cathy, qui est un petit peu enrouée, mais ça va aller Cathy? Alors on t'entend pas, vas-y.
Oui, un petit peu au bout du rouleau, mais bon, je donne tout pour cette fin 2016.
Très bien. Alors, pourrais-tu nous rappeler la question de ce soir, Cathy?
La question est, suis-je prédestiné à être sauvé ou perdu?
Voilà. Alors, dans un monde où il y a beaucoup de théories, beaucoup de... De personnes qui... Voilà, qui s'approprie un texte et qui lui donne une définition. Il y a des textes dans la Bible qui pourraient, je dis bien qui pourraient, nous laisser entendre que la prédestination, c'est-à-dire le fait que nous naissions et que notre vie soit déjà tout écrit quelque part, ça pourrait nous laisser penser cela. Alors peut-être que nous allons lire les deux textes de base ce soir avec vous. Il s'agit particulièrement de Romains 8, verset 3. Et d'Apocalypse 13, verset 8. Alors, est-ce que tu as les textes sous les yeux, Cathy?
Oui.
Voilà, alors juste l'occasion pour moi de vous rappeler que vous pouvez participer à ce débat par WhatsApp, SMS ou en appelant au 07 68 08 46 44. Alors, des questions se posent que nous sommes peut-être déjà posées. Personnellement, j'ai eu l'occasion d'avoir plusieurs fois ce débat. Et il y a plusieurs questions qui se posent. Alors, une des questions, ou on va dire en plusieurs parties, qu'on peut se poser, c'est, au vu des textes que nous allons lire, doit-on croire que finalement nous sommes prédestinés et que autant vivre comme on veut puisque tout est écrit? Et la question qui en découle est, Dieu sait-il d'avance si nous sommes sauvés? Si oui, comment peut-on comprendre le libre arbitre et surtout ne pas baisser les bras dans la course chrétienne? Voilà, alors lisons les textes. À toi, Cathy.
Alors nous avons le texte qui se trouve dans Apocalypse 13, verset 8. Et tous les habitants de la terre l'adoreront, ceux dont le nom a été écrit dès la fondation du monde dans le livre de vie.
Non, c'est bien.
Ah d'accord.
C'est bien ça.
Ceux dont le nom n'a pas été écrit. Voilà.
Ensuite, on a Romains 8, verset 30. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Et je rajoute un dernier texte qui se trouve dans Éphésiens 1, verset 5, où Paul dit ceci. Il nous a prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ selon le bon plaisir de sa volonté.
Voilà. Donc des textes qui, en tout cas en première lecture, nous laissent vraiment penser qu'il y a voilà, un livre où tout est écrit. Enfin bref. Et pour reprendre le premier texte dont tu parles, dont on a lu dans Apocalypse, effectivement, il y fait mention de noms qui n'ont pas été écrits. Donc, a priori, il y a des noms qui sont écrits. Voilà pourquoi on a choisi ce texte aussi. Alors, avons-nous des premières réactions, William, par rapport à ce sujet? Dis-moi.
Oui, on a Claude qui nous dit « Bonsoir toute équipe d'Annette Life ». Il participe à ce débat en nous donnant une définition, selon lui, de la prédestination. Pour lui, c'est une doctrine selon laquelle Dieu destinerait chaque homme au salut ou à la damnation. Il dit « Je ne crois pas qu'il y ait une prédestination pour les êtres humains à la lumière de Jean 3, verset 16. » Il dit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. » Il dit « Je crois plutôt à l'élection des croyants car le Nouveau Testament annonce que les promesses liées à l'alliance conclue par Dieu avec ses élus s'étendent au monde entier. » Tout homme, de n'importe quelle origine, soit juif, soit païenne, devient par la foi en Christ membre de la postérité spirituelle d'Abraham. Il dit également qu'il faudrait lire Galates 3, verset 28, Romains 8, verset 30, qu'on a lu tout à l'heure. Il précise que ce qui est certain, c'est que l'objectif de Dieu pour les hommes n'a pas été fixé après coup, il l'avait établi avant la fondation du monde. Les hommes sont appelés à servir et honorer Dieu. Si nous croyons en Christ, nous pouvons nous réjouir du fait que le Seigneur nous a toujours connus. Son amour est éternel, mais chacun est libre du choix de sa destination. Il rajoute Deutéronome 30, verset 19. Voilà. Voici la participation de Claude, sa réponse à la question « Suis-je prédestiné à être sauvé ou perdu ?»
D'accord. Alors, avons-nous d'autres retours ? Alors, pour l'instant, alors donc, du coup, nous allons laisser la place à Cathy pour voilà, une petite... On va y arriver ce soir. Pour une petite introduction des théories sur la prédestination. À toi, Cathy.
Alors, la prédestination ou le destin sont des théories un peu qu'on retrouve depuis longtemps, notamment dans la Grèce antique, avec les Moires ou les Moiras. Je ne sais pas si vous savez ce que c'était.
Non, je ne sais pas.
Alors, les Moiras étaient en fait les divinités du destin, selon, bien sûr, la mythologie grecque. Et elles étaient trois. Il y en avait une qui filait les jours et les événements de la vie, une autre qui enroulait les fils et tirait le sort de chacun, et une autre qui coupait avec des ciseaux le fil de la vie. En fait, dans la mythologie grecque, ces déesses tissent un fil, le fil de la vie, et elles gèrent un petit peu la vie de chacun, et il semble que personne ne puisse échapper à son destin. Plus tard, dans les années 1500, il y a Calvin qui a combattu l'enseignement catholique du salut par les œuvres dans les années 1500. Donc c'est un réformateur très connu avec Luther. Et il pose cette question. Quelle liberté pour l'homme en effet, si tout est déjà décidé par avance par une instance suprême et immuable? Et je cite... Celui qui sait que son salut est dans les mains de Dieu renonce à ses propres forces, ne choisit plus ses propres moyens, mais attend l'action de Dieu en lui. Alors ceci est tiré du traité du Ser Arbitre, et ça a été écrit par Martin Luther. En fait, tout ça rejoint la croyance de l'élection selon laquelle Dieu aurait déjà prédestiné des personnes au salut. Et en fait, d'après Luther, les personnes qui sont sauvées les personnes qui sont sauvées dès la fondation du monde n'ont pas de soucis à se faire puisque leur destin est déjà fixé.
Alors, sous-entendu, ça veut dire je vis comme j'ai envie de vivre et de toute façon, tout est écrit, donc...
Alors, en fait, la théorie, c'est que je peux vivre ma vie comme j'en ai envie parce qu'en fait, c'est mon destin. Donc, quelque part, je ne peux pas... Je peux pas changer mon destin. Jean Calvin croyait qu'il était sauvé. Il avait cette conviction. Lorsqu'on lui demandait comment il le savait, il disait simplement que c'était une conviction personnelle et qu'en fait, il n'avait pas à combattre. Ce qui me dérange avec un petit peu le concept du combat par la foi de Paul, parce que d'après Calvin, il faut suivre le cours de sa vie puisque Dieu va gérer ses affaires en son temps.
D'accord, ok. Alors, est-ce que tu as d'autres choses à partager avec nous par rapport à ça ?
Ah pardon, oui. Je n'avais pas. Je pensais que tu t'adressais à William. Oui. Alors en fait, ça pose un petit peu la question de savoir s'il existe un livre de vie. Donc je rappelle pour les auditeurs qui ne connaissent pas un petit peu le livre de vie, c'est un livre qui apparaît notamment dans l'Apocalypse, où il était indiqué que ceux qui sont sauvés ont leur nom inscrit dans le livre de vie. Donc si on s'arrête là, tout va bien. Sauf que le verset indique « dès la fondation du monde ». Donc il semblerait qu'avant que l'on soit né...
Avant même que le monde ne soit créé,
Dieu savait déjà... ceux qui seraient sauvés, et pour gagner du temps, on va dire ça comme ça, il a inscrit un petit peu le nom sur le livre de vie, et voilà.
Alors, pour épicer un petit peu le débat, et peut-être que Pasteur Sean pourra nous éclairer tout à l'heure là-dessus, je me suis souvent posé la question, mais si Dieu est omniscient, c'est qu'il sait. Est-ce que tu vois ce que je veux dire ? S'il est omniscient, il ne peut pas être omniscient et puis ne pas savoir certaines choses. Donc, avant même que je sois né, en quelque part, il sait si je suis sauvé.
Moi, c'est pas ça qui me pose la question, qui me pose problème. Le problème pour moi, c'est que qu'il le sache, pour moi, ça me choque pas, puisque Dieu sait tout. Mais le fait qu'il est inscrit des noms sur un livre, ça peut paraître un peu pas grossier. Je m'entends quand je dis ça, mais je veux dire, ça veut dire, bon, le cas de tout le monde est fixé.
Voilà, donc je peux vivre donc, voilà, la vie que j'ai envie. Voilà, je c'est peux... ça. Oui, alors il y a William qui veut participer. Voilà. Alors attends William, on t'écoute.
Effectivement. Alors j'ai une petite histoire pour illustrer à peu près pour ajouter une idée à ce débat. Alors le fait que notre destinée future soit dès à présent connue de Dieu ne porte aucunement atteinte à notre liberté. Alors par exemple, David, Cathy, cher auditeur, supposons qu'un hélicoptère chargé de la surveillance d'une autoroute à grande circulation survole celle-ci à plusieurs centaines de mètres de hauteur.
D'accord.
La position des hommes se trouvant à bord de l'hélicoptère leur permet une vue d'ensemble du trafic routier dont ils ne peuvent jouir ceux qui se déplacent au niveau du sol. Jusque-là, tu me suis. Donc, le fait d'être en haut de l'hélicoptère, on n'a pas la même vision que ceux qui sont dans les voitures.
Ok.
Or, voici que le policier chargé d'observer l'autoroute aperçoit soudain une voiture qui s'engage dans un sens interdit. Et presque aussitôt, un autre véhicule roulant à vive allure dans le sens réglementaire. La collision est inévitable. Mais seul l'observateur survolant la chaussée peut la prévoir. Il la prévoit en effet en annonçant peut-être au micro l'accident comme un fait imminent. Qui est responsable de la collision? Nul aurait l'idée d'accuser le policier qui a prévu l'accident de l'avoir par là même provoqué. Le fait qu'une personne située à 200 ou 300 mètres au-dessus de lui constatait sa faute et ses conséquences fatales ne privait en aucune façon le conducteur imprudent de sa liberté de manœuvre. De même, le fait que Dieu a pu prévoir de toute éternité l'usage bon ou mauvais de ce que nous faisons, de nos facultés, ne nous prive nullement de notre liberté présente.
Alors, c'est très intéressant comme image, à ceci près que cela, pour amener un peu à la Bible, cela signifierait que l'hélicoptère, avant même que les voitures n'existent, saurait, enfin, voilà, sait qu'il aurait eu un accident.
Le fait, d'avoir une vision vraiment haute de ce qui se passe sur la route, celui qui est dans l'hélicoptère peut déjà annoncer qu'il y aura déjà un accident, même s'il n'a pas encore lieu. Mais celui qui est dans la voiture a toujours la possibilité de s'arrêter, de faire marche arrière. D'où,
il a toujours son libre arbitre.
Exactement. Okay. Même si on peut prévoir déjà qu'il va se passer quelque chose.
Alors, Cathy.
Alors, je voulais revenir sur...
Vas-y, on t'écoute.
Oui, alors, concernant toujours ce débat, c'est une question que je me suis posée. Et pour l'illustrer, moi, j'ai une autre histoire. Alors, comme je l'ai déjà dit, j'ai travaillé plusieurs années dans un cabinet de recrutement. Et en fait, vous savez, dans le droit du travail français, il y a ce qu'on appelle des discriminations. Donc, en fait, on ne peut pas mettre sur une annonce d'offre d'emploi, par exemple, je veux une personne caucasienne, on va dire, entre 25 et 30 ans, non mariée, pas d'enfants à charge, etc., pour ce travail. Sauf qu'en fait, dans la réalité, les entreprises qui passent par des cabinets de recrutement nous disent ouvertement, par exemple, ça arrive souvent, pas de noirs, pas d'arabes, pas de personnes avec des accents. Sauf que nous sommes obligés, en fait, de recevoir toutes les personnes qui ont envoyé leur candidature. Et en fait, bien que la personne puisse répondre à l'offre d'emploi par ses compétences, elle ne sera jamais sélectionnée parce que les critères ont été donnés au préalable. Donc en fait, on reçoit tout le monde, mais on sait d'avance le profil type de la personne qui sera recrutée. Et c'est un petit peu l'image que je veux mettre en parallèle avec les versets qu'on a lus. D'après ce qu'on a lu, même si on prend Jean 3, verset 16, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais ait la vie éternelle », si on met ça en parallèle avec la prédestination, bon oui, Dieu envoie Jésus pour que tout le monde soit sauvé, mais grosso modo, il l'envoie pour ceux qui seront sauvés, puisqu'il sait déjà ceux qui accepteront par la foi le salut de Jésus. Donc moi, ça me pose une question, et j'aimerais que le jeune puisse y répondre. C'est au final, Dieu envoie Jésus pour sauver tout le monde, mais si les noms des justes sont déjà écrits, est-ce que, en parallèle, Dieu n'aurait pas en fait envoyé Jésus pour ceux qui doivent être sauvés? Et puis bon, le message général, c'est qu'il vient pour tout le monde. Mais bon, comme il sait déjà ceux qui vont être sauvés, bon, grosso modo, le salut est déjà prédestiné pour certaines personnes.
D'accord. Alors, je vous laisse avec un petit fond musical, juste le temps pour nous de prendre Sean au téléphone. Et nous revenons juste après. Ne bougez pas, restez avec nous, nous revenons. Très bien. Alors, je crois que cette fois-ci, c'est bon. On pourra entendre... Allô, pasteur.
Allô, bonsoir, David.
Voilà, très bien. Bonsoir à toi, pasteur Sean. Merci beaucoup de voilà de nous consacrer ce petit temps, alors que nous savons que tu es très chargé. Donc déjà, bienvenue à l'antenne. Et puis, merci. Donc, du coup, nous t'écoutons par rapport à ce sujet.
Alors, je dis bonsoir à chaque auditeur. Et bonsoir à chacun d'entre vous, William et Cathy.
Bonsoir, bonsoir.
Alors, j'ai pu entendre quelques notions de vos arguments sur la question de la prédestination et bien sûr la question qui a été posée. J'aimerais juste faire un petit rappel, c'est-à-dire que même avant la période gréco-romaine, il y avait bien sûr la période des Hébreux et bibliquement parlant à travers la littérature hébraïque. Nous pouvons tracer la notion de la prédestination dans les écritures des différents auteurs. C'est-à-dire, il y a plusieurs auteurs qui pensent que Dieu est responsable de tout. C'est-à-dire, Dieu a fait même ce qu'il n'a pas fait. Autrement dit, parce que Dieu a permis aux choses d'arriver, donc il en est l'auteur, il en est le responsable.
D'accord.
Et à travers... la littérature de l'Ancien Testament, nous allons voir plusieurs auteurs qui expriment de cette façon. Donc, Dieu fait tout, il fait le mal, il fait le bien, il est responsable de tout. Dieu a durci le cœur de Pharaon, des textes, comme si c'est pas Pharaon qui a choisi dans son cœur quoi que ce soit, mais c'est Dieu qui a fait quelque chose dans son cœur. Et ainsi de suite, il y a plusieurs... Mais c'est un esprit, c'est une culture de pensée.
D'accord.
Et cette culture de pensée ne veut pas dire que Dieu est ainsi, puisque la parole divine est enrobée dans la culture humaine. Dieu a choisi ainsi pour que cette culture humaine soit le véhicule de sa parole divine. Autrement dit, la parole divine que nous avons dans la parole, considérée comme sacrée, va avoir plusieurs notions de ce qu'on appelle l'anthropomorphisme, c'est-à-dire des formes humaines, autrement dit, des pensées de Dieu qui ont été données en forme humaine. Et donc, l'Ancien Testament est particulièrement écrit dans cette façon. Après cette période, on arrive vers la période juste avant Jésus-Christ, qu'on appelle intertestamentale, et cette période va toucher plusieurs notions à travers les différents groupes et les leaders religieux, y compris les pharisiens, les sadduciens, les esséniens. Les pharisiens disaient que Dieu destine par une manière mystérieuse le destin de chacun. Pourtant, chacun est libre d'agir comme il veut, mais Dieu, d'une façon mystérieuse, va faire en sorte que la personne fasse comme lui, il a prédestiné.
D'accord.
Donc, en fait, là, il y a la question de libre arbitre qui n'existe plus.
Pardon?
La question de libre arbitre, alors, du coup, n'existe pas dans ce cas-là.
Non. Pour les pharisiens, ça existe. Mais c'est Dieu qui fait d'une manière mystérieuse, inconnue, pour que les choses arrivent telles que lui, il le souhaite.
D'accord.
Pour les sadduciens, c'est qu'il n'y a pas de prédestination, chacun est libre. Pour les esséniens, personne n'est libre, c'est Dieu qui prédestine toutes choses. Et à l'époque de Jésus, on arrive dans la période gréco-romaine, ce que tu as décrit, Cathy, avec des plusieurs dieux qui sont représentés comme étant les fruits ou l'auteur des prédestinations des êtres. Après cela, On arrive dans l'église apostolique, on a l'apôtre Paul qui parle. Et là, dans le texte qui a été cité dans la question, on a cette notion où Paul, étant pharisien lui-même, a la compréhension complète de la notion de prédestination. Et donc, Paul, lorsqu'il écrit, il va utiliser les mots qui donnent l'impression qu'il veut dire un sens ou un autre. Et après la période de l'Église apostolique, on arrive dans le temps de l'Église catholique et les protestants, et tu as décrit bien la question de Jean Calvin, comme on dit en anglais, John Calvin. Ces personnes-là ont défendu ce décret éternel de Dieu qui détermine les choses.
D'accord.
Et j'aimerais pour vous montrer ce que Paul veut vraiment dire. On regarde le texte qui a été cité.
Donc, on rappelle, alors,
c'est
tout à l'heure...
Romains chapitre 8.
C'est ça, au verset 30.
Au verset 30. Mais, d'abord, précisons le contexte de ce quelques versets qui précèdent le verset 30. Parce que le verset 29 et verset 30 sont pratiquement les conclusions d'une pensée. Si vous regardez à partir du verset 18 jusqu'au 30, vous voyez que Paul est en train de développer quelque chose où il parle de la gloire qui va arriver à la fin. C'est-à-dire la création a été faite pour recevoir la gloire de Dieu, c'est-à-dire les êtres qui vivent dans une manière glorieuse avec Dieu. Mais maintenant, on est dans la période de souffrance. Mais bientôt, tout cela va changer. Et Paul va continuer son développement pour nous expliquer comment l'Esprit nous aide, nous, à retrouver cette gloire que Dieu veut nous donner, parce qu'on est dans l'espérance de cette gloire. Et c'est à partir de là, quand il va parler dans le verset 28, nous savons du reste que tout coopère pour le bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son projet. Dans ce discours de ces quelques versets, on rentre maintenant dans la notion du projet de Dieu et ceux qui sont appelés selon le projet de Dieu. Mais regardez bien comment Paul décrit ce projet dans le verset 29. Il dit, moi je suis en train de lire la version NDS. Hein?
D'accord.
La plupart des auditeurs, parfois, ils sont avec les autres versions comme la LSG. Mais je suis avec la NBS, qui est plus proche du texte manuscrit grec que la LSG. Alors, 29. Car ce qu'il a connu d'avance, et notez bien le mot « connu », pas « prédestiné », mais ce qu'il a connu d'avance, en parlant de Dieu, il les a aussi destinés. Donc, pour la première fois dans le discours de Paul concernant ce qui semble être la prédestination, Paul fait la différence entre ce qui est connu d'avance et ce qui est destiné d'avance. Est-ce que vous me voyez?
Oui, oui, on te suit.
Donc, en fait, la différence... Attends, je... Ah, oui.
Pardon?
La différence entre connaître et destiner, c'est que quand il dit « il les a connus d'avance », c'est par rapport à son omniscience.
Ça, c'est par rapport à son omniscience que Colossiens chapitre 2 nous explique qu'en Dieu est caché tous les trésors de la sagesse et de la connaissance du monde entier, de l'univers. Dieu connaît tout. Donc, autrement dit, dans l'exemple de l'hélicoptère et l'autoroute, Dieu voit à l'avance tout ce qui va se passer jusqu'à la fin du monde. Jusque-là, dans cette phrase avancée, nous ne sommes pas en train de parler de prédestination, on est en train de parler de sa connaissance. D'accord. Du futur. Après, il les a aussi destinés, c'est-à-dire déterminés d'avance à être configurés à l'image de son fils. Autrement dit, c'est ceux qu'il a connus à l'avance qu'il a déterminés en étant OK, puisque les choses seront ainsi dans le futur, je prépare le futur basé selon ce qui serait. et ce qui sera le futur. Est-ce que vous voyez?
D'accord. Donc les deux aspects sont indissociables, en fait.
Pardon?
Les deux aspects sont indissociables, le fait qu'ils connaissent et le fait qu'ils destinent.
Les deux aspects peuvent être désassociés, puisque la prédestination n'est pas forcément quelque chose qui suit automatiquement ce que Dieu connaît. Mais puisque Dieu connaît, Dieu sait ce qui va se passer et il sait à l'avance comment il va faire pour tout le monde.
D'accord.
Pour bien illustrer ce que tu dis, Sean, en fait, Dieu connaît à l'avance ce qui va se passer tout en prenant en compte, le libre arbitre de l'être humain.
Parfaitement.
D'accord.
Et cela est clair. Le libre arbitre est aussi clair dans ces deux versets, même avant d'aller dans l'Apocalypse. Le libre arbitre est clair dans ces deux versets parce qu'il dit, il les a aussi destinés d'avance, ce qu'il a connu d'avance, à être configuré à l'image de son fils pour qu'il soit le premier-né d'une multitude de frères. Et ceux qu'il a destinés d'avance, il les a aussi appelés. Ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Dans la notion de l'écriture de Paul, celui qui est justifié, c'est celui qui exerce sa foi, donc sa liberté.
Donc là, on sous-entend bien que Dieu appelle, qu'en fait, l'homme ne suit pas juste le cours de son chemin, c'est qu'il y a forcément un appel.
Dieu appelle tous les hommes. Et l'homme fait son choix, il vient à Dieu, il accepte son état, son besoin de Dieu, il confesse ses péchés, Dieu le justifie en disant « Je te prends comme quelqu'un qui n'a jamais péché, je te pardonne. »
Mais est-ce qu'il l'appelle aussi ceux qui ne... Est-ce qu'on peut dire qu'il appelle tout le monde?
Dieu appelle tout le monde parce que la Bible dit que beaucoup sont appelés et peu sont choisis.
Juste vraiment insister sur le fait que Dieu appelle tout le monde et qu'en fait, il justifie ceux qui répondent positivement à l'appel.
Parfaitement. Dans la notion de Paul, dans le livre de Romains, il n'y a aucune justification sans la notion de l'exercice de la foi de la personne. D'ailleurs, même les prophètes de l'Ancien Testament, Habacuc, parlent de cette justification selon ceux qui exercent leur foi. À travers Paul, à travers d'autres livres de Nouveau Testament, nous avons la justification qui est basée simplement, uniquement sur la foi. Donc ici, implicitement, la notion du choix de la personne qui est appelée est là, c'est présent. La personne est appelée, la personne fait son choix, il est justifié. Et puisque Dieu sait ce qui va lui arriver à la fin, Dieu peut dire tout ce qu'il veut de cette personne sans interférer avec la notion du choix, le libre choix, libre arbitre de la personne.
D'accord.
Alors, si vous voulez, on peut regarder un peu, qui est aussi simple, la notion de l'Apocalypse 13, qui a été citée dans la question. Tous les habitants de la terre, ceux dont le nom n'a pas été inscrit sur le livre de la vie de l'agneau immolé depuis la fondation du monde, se posteront devant elle. Aussi, cette question de ceux qui sont inscrits dans le livre de vie, c'est parce que Dieu sait quel sera le choix de chacun. Et ce qui est immolé depuis la fondation du monde, ce n'est pas le peuple, ni le livre, mais c'est l'agneau. Donc, la notion depuis la fondation du monde, c'est pour l'agneau. C'est une expression qui veut dire que Jésus a choisi de donner sa vie pour l'humanité avant que l'humanité même soit créée.
D'accord.
Et là, donc, on revient au plan du salut qui a été pensé avant même la création de la terre.
Parfaitement. Le plan du salut fait depuis la fondation, avant la fondation du monde. Donc, dans la Bible, la prédestination n'existe pas tel que on le définit par décret éternel de Dieu. Mais Dieu connaissant toutes choses, il peut déterminer à l'avance comment il va faire avec les différents choix de chacun. Et juste pour nos auditeurs, si nous lisons 1 Timothée 2, verset 4, on comprend très bien que Dieu veut que tout le monde soit sauvé. Dieu veut que tout le monde puisse venir à la connaissance de la vérité. Dans 2 Pierre 3, verset 9, Dieu ne souhaite que personne périsse, mais que chacun vienne à la repentance. Et vous voyez le mot repentance, l'activité de l'être humain, son choix de se repentir et de venir à Dieu. Et comme Ézéchiel 33, verset 11 dit, Dieu n'a aucun plaisir dans la mort du méchant, mais il veut que le méchant puisse se détourner de sa voie et qu'il puisse vivre. Toutes ces notions de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament démontrent que ce n'est pas un décret éternel pour les hommes. Jésus-Christ lui-même, dans Matthieu 11, 28, dit, « Viens à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et moi, je vous donnerai du repos. » Et même dans l'Apocalypse 22, verset 17, la Bible dit clairement, « C'est celui qui veut qu'il vienne et qu'il prenne de l'eau de vie gracieusement. » Donc, toute la notion de la Bible entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament n'enseigne pas la prédestination comme un décret éternel.
D'accord. Alors, en fait, la prédestination comme Calvin la présente, c'est uniquement si on s'arrête à des textes hors contexte.
Si on s'arrête à des textes hors contexte, si on s'arrête à des textes qui ne font pas la ligne de l'enseignement à travers la Bible, c'est-à-dire il est très facile d'isoler des textes, même pas un seul, mais on peut isoler plusieurs textes, et on peut les lire d'une façon littéraire pure, et que cette façon ne nous donne pas l'enseignement, parce que l'enseignement n'est pas dans les mots, mais dans les sens du texte. Et il est très important que les lecteurs de la Bible n'oublient pas que les humains à qui Dieu a donné les idées, ces idées divines, il leur a laissé le libre arbitre dans leur culture littéraire de déposer cela sur papier. Autrement dit, tous les auteurs ont leur structure littéraire, ont leur structure d'éducation, ont leur structure vocabulaire, syntaxe, de grammaire et de manière d'écrire, et ils vont déposer l'idée divine dans sa façon culturelle, et il y aura l'apparence de cette structure, il y aura l'apparence de cette littérature. Donc quand on vient dans la Bible, on doit essayer de savoir qu'est-ce qui est le sens de la structure littéraire de l'époque, de la culture de l'époque. Est-ce qu'on est dans des poésies? Est-ce qu'on est dans des proses? Est-ce qu'on est dans des parallélismes? On est dans quoi? Et quand on va essayer de le faire, on va voir que toute la lumière de la Bible va jaillir devant nous. On va sauter de joie, on va arriver au plafond, parce que ça va être beau de voir comment la parole est belle. Et pour terminer, tout le texte que tout le monde connaît, car Dieu tant aimait le monde, Jean 3, verset 16, qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Quiconque croit en lui.
Amen. Merci beaucoup, pasteur Sean Darding, d'avoir partagé avec nous, en tout cas, cette pensée, parce que effectivement, ce n'est pas quelque chose de simple, mais grâce à tes éclaircissements, en tout cas personnellement, j'ai vraiment avancé dans la compréhension de ces concepts qu'on appelle de prédestination. Merci beaucoup, pasteur, et très bonne soirée.
Que Dieu bénisse vos auditeurs.
Merci beaucoup, très bon sabbat.
Bonsoir, bon sabbat.
À bientôt.
Au revoir.
Voilà, donc nous revoici à l'antenne. Merci beaucoup vraiment, pasteur, pour cette intervention. Alors, est-ce que cela a suscité des interventions des auditeurs, William ?
Oui, effectivement, vous avez été plusieurs à participer, toujours au 07 68 08 46 44. Nous avons Lynn de Paris qui, donc j'ai relevé quelques éléments. Elle dit qu'elle précise également que nous ne sommes pas prédestinés à être sauvés puisque nous sommes tous des pécheurs, comme elle le lit dans Romains 3, verset 23. Nous avons également Mylène qui rajoute que la préscience de Dieu laisse comprendre que Dieu sait qui sera sauvé et perdu, et par défaut on est perdu à cause du péché. Donc voilà deux idées qui se rejoignent.
Alors, il y a une troisième que tu n'as pas pu voir puisqu'elle est arrivée par mail. De Justine. Merci beaucoup Justine pour ta participation par mail. Je pense pour ma part, dit-elle, que même si Dieu sait toute chose, et notamment qui sera sauvé pour son retour, il a donné son fils pour que tout le monde garde l'espoir d'être sauvé, ce qui rejoint la pensée de Pasteur Sean qui a appelé tout à l'heure. Il ne faut pas se demander « Est-ce que Dieu m'a choisi ?» mais plutôt « Aujourd'hui, est-ce que mon comportement m'accordera la vie éternelle ? Si Jésus revient demain, suis-je prêt ?» Voilà la question sur laquelle se concentrer, nous dit-elle. Voilà, merci beaucoup Justine. Alors, ça a été en tout cas très édifiant pour ma part. Je ne sais pas si tu voulais partager autre chose avec nous, Cathy, par rapport à cela.
Si. Alors déjà, je voudrais remercier le pasteur qui répond toujours favorablement aux bouteilles à la mer lancées par Advent Life. Voilà. Merci parce qu'on l'a prévenu très tard. Il a pris du temps. Voilà, on est en week-end, en sabbat, donc déjà merci. Merci pour ces éclaircissements. Moi, ce que je comprends, c'est que Dieu appelle et qu'une fois que l'on répond favorablement à l'appel, on est quelque part destiné à être sauvé. Et j'aime beaucoup cette image-là par rapport à au salut, et en fait, il y a cette image aussi de combat. C'est-à-dire que même si Dieu sait, cela ne veut pas dire qu'il ne faut pas lutter. Voilà pourquoi Paul parle du combat de la foi. Donc, mon exhortation ce soir, c'est que chacun se pose la question actuellement, où en est ma vie spirituelle? Où j'en suis sur mon cheminement? Est-ce que je m'avance vers la vie éternelle, vers cette porte étroite, vers ce chemin difficile, ou bien est-ce qu'au contraire, je m'avance vers, j'ai envie de dire, la mort éternelle? Voilà la question que j'aimerais, enfin moi, que je vais me poser ce soir et que je pose un petit peu à tout le monde ce soir.
Alors, reformule ta question, qu'on puisse...
La question, au vu de ce que le pasteur Sean nous a donné, c'est aujourd'hui. Qu'en est-il ? Quand je dis qu'en est-il, c'est que souvent, enfin moi, c'est vrai que je me suis baptisée à 12 ans. Et en fait, dans ma mentalité d'enfant, je pensais qu'à 12 ans, mon nom était inscrit sur le livre de vie. Avec un stylo indélébile. Donc, ça fait quand même sourire. Ben, j'ai mal compris la Bible, et ce que j'ai compris moi, c'est que bon, j'accepte Dieu à 12 ans, parce que je sais qu'il peut revenir demain, et que quoi qu'il se passe, quoi que je fasse, je serai sauvée. Et ça, c'est la facilité de se dire que comme mon nom, hypothétiquement, est inscrit sur le livre de vie, bon, j'ai plus rien à faire. Et il est là le danger.
Alors justement, nous avions Danric qui nous a appelé tout à l'heure, et qui voulait... partager quelques phrases avec nous. Alors, Danric, rapidement, puisque l'heure est déjà avancée, je ne sais pas si nous l'avons à l'antenne. Salut, Danric.
Oui, je suis là. Bonsoir. Bonsoir, tout le monde.
Voilà. Alors, on est désolé, on va te presser un petit peu, Danric.
J'ai très bien compris.
Mais comment on t'a sollicité? Alors, je voulais quand même que tu partages quelques mots avec nous, peut-être dans la lignée de la conclusion de Cathy.
D'accord. Voilà, exactement par rapport à ce que Cathy a mentionné, le fait qu'elle était baptisée à 12 ans et que son nom était inscrit dans le livre de vie. Alors, il faut savoir que lorsque tout le monde se fait baptiser, tous ceux qui se sont fait baptiser, leurs noms sont inscrits sur le livre de vie. Maintenant, lorsqu'on lit Apocalypse 3, le verset 5, le texte nous dit « Celui qui vaincra sera ainsi revêtu de vêtements blancs. Je n'effacerai point son livre du livre de vie. »
Son nom du livre de vie.
Maintenant, voilà. Donc, si le Seigneur nous dit ça, c'est qu'il y a des choses que nous pouvons faire qui auront comme conséquence l'effacement de notre nom du livre de vie. Maintenant, je n'ai pas le temps d'aller dans le texte précis, mais il faut savoir qu'il y a trois livres, livre de vie, de souvenirs et de péchés. Maintenant, lorsqu'on se donne à Jésus-Christ à travers les eaux du baptême, il nous faut vraiment renaître de nouveau. Il nous faut changer complètement de vie, d'accord? Puisqu'on est dans le conflit cosmique, et il faut vraiment montrer à Dieu que le péché, nous n'en voulons pas de cela.
D'accord.
Maintenant, ce qui va déterminer si le nom reste sur le livre de vie ou pas, ça dépend de nos péchés que nous avons, premièrement, confessés et délaissés.
Donc, en gros, t'es en train de dire qu'on continue et jour après jour, en fait, c'est un combat de chaque jour, enfin, un combat entre guillemets, un travail de chaque jour de pouvoir préserver son nom, si je puis dire ça comme ça, sur le livre de vie, c'est ce que tu dis?
Exactement, puisque ce qui va déterminer si le nom reste sur le livre de vie, c'est le livre de souvenirs et le livre de péché. Le livre de souvenirs contient toutes les bonnes actions, et le livre de péché contient nos péchés. Maintenant, je ne suis pas en train de dire que nous sommes sauvés par les œuvres.
Oui, je comprends.
Ce que je veux en train de dire, c'est que les bonnes œuvres qui figure sur le livre de vie, ce sont les bonnes œuvres que le Saint-Esprit a produites en nous. Donc, on ne peut même pas réclamer de cela.
D'accord.
Ce sont les œuvres de Christ manifestées en nous qui sont notées dans le livre de vie. Et c'est en fonction de cela que Dieu va déterminer si notre nom reste ou pas sur le livre de souvenirs, sur le livre de vie. Maintenant, il faut s'assurer que tous nos péchés sont confessés. C'est très important. Mmh. Parce que même si que nous avons de bonnes œuvres et admettons que lors du jugement, notre nom apparaisse, si par exemple, il y a un péché qui n'est pas confessé, notre nom est radié du livre de vie. Maintenant, c'est pour ça qu'il faut être tout le temps sur nos gardes, être dans la soumission et surtout dans la prière pour être constamment dans la confession. Il faut tout confesser pour que lorsque notre nom arrive au jour du jugement, il faut que nous soyons clean en fait. Et donc, on arrive à cette notion de victoire complète sur le péché.
D'accord.
Ça, c'est possible. Sinon, la mort de Jésus n'a aucun sens. Jésus est venu, oui, pour qu'on ait le pardon des péchés, pour qu'on demande pardon, mais la finalité, c'est la victoire complète et totale sur le péché.
D'accord. Ben, en tout cas, ça a été vraiment très clair, en tout cas, ton intervention, et ça a permis justement d'approfondir la conclusion, si on peut dire, que Cathy avançait, et de pouvoir justement encore mieux comprendre que la vie du chrétien est un travail, de tous les instants, c'est ça. Voilà. En tout cas, merci beaucoup, Danric, pour ton intervention, synthétique et très, très pertinente.
Bonne soirée à vous tous.
Ok, très bonne soirée à toi. Voilà, nous arrivons à la fin de ce débat, Cathy. Alors, est-ce qu'on a besoin de rajouter quelque chose finalement ?
Non, je pense que tout a été dit. J'ai beaucoup aimé ces deux interventions.
Oui. Alors, j'aimerais, le temps que tu rassembles tes esprits, en tout cas, remercier plusieurs points. Donc, la fameuse image qui a permis de... Parce que c'est vrai que Jésus parlait en image et l'image de ce fameux hélicoptère était assez bien illustrée. Peut-être que tu pourrais nous dire où tu as extrait...
Effectivement, il vient pas de moi.
Ça pourrait.
Effectivement, moi j'utilise le livre à l'écoute de la Bible.
Alors, on t'entend pas très bien.
Alors, c'est un livre à l'écoute de la Bible qui présente plusieurs thématiques... C'est un très bon livre d'étude et comme ce débat est toujours basé sur des textes bibliques, il nous permet de puiser directement sur un thème donné les versets qui correspondent.
Alors peut-être un auteur ou c'est un ensemble d'écrits en fait.
Voilà, c'est plus
une compilation.
Il n'y a pas vraiment d'auteur.
Ok. Voilà.
En fait, beaucoup de choses ont été dites, tout a été dit. Rappelez également que. Le but, c'est que, au final, c'est que effectivement, nous soyons sauvés.
Voilà. Donc,
il n'y a pas de enfin, pour reprendre un élément, c'est puisque Dieu veut que tous les hommes soient sauvés, il est inconcevable qu'il ait décidé sans raison de vouer une partie d'entre nous à la damnation éternelle. Car Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à l'acquisition du salut par notre Seigneur Jésus-Christ. Un verset que nous voyons dans 1 Thessaloniciens 5, au verset 9.
Voilà, ouais. Merci beaucoup. J'espère que vous avez apprécié ce petit débat. Merci beaucoup à Whitney qui nous a rejoint. Et oui, Cathy, tu allais dire quelque chose.
Je disais que si vous avez des questions aussi...
Oui, voilà, c'est ce que j'allais dire.
Voilà.
C'est-à-dire, voilà, si vous avez des questions... excuse-moi. Si vous avez des questions, voilà, pour aller plus loin, nous les rassemblerons et puis nous les ferons parvenir, par exemple, à Pasteur Sean ou voilà, et nous pourrons y répondre ou il pourra y répondre par la suite. Donc n'hésitez pas, 07 68 08 46 44. Merci beaucoup pour votre participation, ceux qui ont participé par SMS, WhatsApp et email.
Également sur Twitter, puisqu'il y avait
sur Twitter,
à nouveau
voilà.
Un vote et vous étiez 80%, 83% à répondre non à la question « Suis-je prédestiné à être sauvé ?»
Très bien. Voilà, donc nous sommes à la fin de ce débat. Merci beaucoup d'être restés très 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 nombreux. Vous avez failli faire exploser le compteur de Radio Advent Life ce soir. Alors qu'il est déjà 22h13, nous laissons quelques minutes d'instrumental et puis nous revenons avec un moment de prière pour pouvoir clôturer ce débat et que l'Esprit de Dieu, que tout ce qui a été semé dans nos cœurs puisse grandir grâce à l'Esprit de Dieu.